Bienvenue à tous, je suis avec Mathurin Mélé, bienvenue.
Coucou, merci.
Le digne représentant de la moustache dans l'humour.
Ouais, c'est ça, on essaye.
J'ai fait un lancement de journal télévisé presque là. C'est le digne représentant de la moustache. Mais bon, c'est vrai que la moustache, c'est fou à quel point c'était la norme à un moment donné.
Alors ouais, moi donc je fais partie d'un trio qui s'appelle le Moustache Poésie Club, où on s'est formé en 2006, donc ouais, il y a bientôt 14 ans, et au départ c'était pas du tout, c'était avant la mode de la moustache.
Mais là c'est même pas vraiment encore la mode
non,
de la
non,
moustache.
Non mais non, c'est fini. Mais
ah, il y a eu une petite mode.
Il y a une période, ouais, les gens nous prenaient vraiment pour des hipsters, parce que oui, il y a eu une petite mode de la moustache vers 2010,
ah, 2011. C'est retombé.
Et après c'est retombé, donc maintenant c'est encore plus ringard qu'en 2006. En fait.
Non mais parce que moi je parlais même de avant, à une époque où c'était plus qu'une mode, c'était vraiment la norme.
Dans les années 70, ouais, l'époque Mérine, tout ça, oui.
Exactement. Puis même les encore aujourd'hui, non peut-être plus aujourd'hui, mais même à une époque dans certaines professions c'était encore la norme, je sais pas, genre.
Ouais, genre.
Bah je sais pas, tu vois
genre
des.
Flic.
Ouais, pas plus gendarme.
Ouais, gendarme. Ouais,
gendarme. Moi j'ai grandi en Auvergne au Puy-en-Velay, les gendarmes, s'il y a plus de gendarmes que de flics, du coup c'est beaucoup.
Ouais, gendarme à moustache, voilà. C'est vrai que ouais, c'était un bon cliché. Ouais.
C'est ça. Mm. Même le pire c'est au. Moi j'ai la famille, la moitié de ma famille qui est marocaine, et au Maroc c'est encore pire.
Ouais.
Ah ouais, les gendarmes là-bas c'est vraiment, ils ont tous la moustache.
Il faut avoir une moustache pour être gendarme. Quoi.
C'est ça. Et puis même la moustache au Maroc, au final je me rends compte, ça a beaucoup plus à la mode qu'en France. Genre c'est resté un peu. Tu sais, la mode des années 60-70 est restée un peu là-bas. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus la mode de la barbe. Hein. Moi, je suis là-dessus. D'ailleurs, il faut que j'aille chez le barbier, là, pour me...
Mais je me suis rendu compte de ça tout à l'heure en venant là dans le métro. C'est vrai que je regardais les gens, tout ça, et tous les mecs ont de la barbe, en fait, maintenant. On voit pas beaucoup d'imberbes.
Bah ouais.
Non.
Bah c'est génial, tu caches la moitié de ton visage.
C'est ça, ouais. Ouais, les gens se cachent derrière une barbe, une moustache. Ou,
C'est-à-dire que là, moi, les gens pensent que je suis gros, mais en fait, je suis très gros.
D'accord.
et donc, la moustache, avant de monter ton trio, t'avais la moustache ?
Plus ou moins. Et après, quand on a monté ce trio, donc avec mes deux potes, il nous fallait un emblème, on avait tous plus ou moins la moustache, donc on s'est dit, vas-y, on se met carrément la moustache, et on s'appelle le Moustache Poésie Club.
Il y avait Golden Moustache aussi.
Alors ça, c'était après aussi, ouais.
Ah, c'est arrivé après vous.
Ouais, ouais.
Et donc ce trio, raconte un peu comment ça s'est passé. Alors, enfin, avant le trio, je veux rester sur la moustache.
Vas-y.
Qu'est-ce qui t'a lancé sur la moustache ? T'as toujours, enfin pas toujours forcément, mais à quel moment t'as décidé, vas-y, je vais porter la moustache ?
Avec ce trio, justement, ça m'a permis d'assumer d'avoir la moustache. Mm-hmm. Parce qu'avant, j'aimais bien la moustache, mais j'avais 24-25 ans, j'assumais pas trop d'avoir une moustache. Et après, avec ce trio, je me suis dit, bon, bah, vas-y, on y va à fond. Et j'ai une excuse pour avoir une moustache, c'est que je suis dans ce trio.
Ok.
Voilà. Donc, ouais, ce trio, on s'est rencontrés, on faisait du slam à l'époque.
Ouais, j'ai
2005,
vu que.
2006. Ouais. Ouais, on faisait du slam. Et puis, on était tous les trois un peu dans l'autodérision. Alors que le slam, c'était un truc un peu. Les gens se prenaient un peu au sérieux, tout ça.
Ouais,
et on s'est dit, vas-y, on fait un trio, on monte un spectacle. Mais on se connaissait pas beaucoup.
Mais il y a pas mal de monde. Il y a pas mal de parallèles entre le monde du slam et du stand-up.
Ouais.
J'allais dire de l'humour, mais vraiment plus du stand-up pour le coup.
Bah oui, à l'époque, il y avait même des gens qui font du stand-up maintenant, comme il y avait Candy. Candy Nguyen, qui faisait du slam aussi. Et puis, ouais, il y avait pas mal de ponts à l'époque. Moi, je connaissais déjà Seb Melia, Charlet, tout ça. Il y avait pas mal de connexions.
Comte de Bouderbala, il faisait du slam, lui
Non, mais bon, il traînait Grand Corps Malade.
C'est ça.
Ouais.
Il était dans cette connexion-là. Ouais.
C'est ça, ouais.
Donc, ouais, et donc, t'as commencé comment le slam
Comment bah, c'est-à-dire, je faisais du rap, je faisais du théâtre. Puis, okay. j'avais découvert ça dans un bar au Café Chéri. Et je me suis dit, ah tiens, faudrait que j'essaye, que je monte sur scène, et voilà.
Parce que toi, t'as
un peu compromis entre le théâtre, le rap, tout ça.
T'as grandi à Paris ?
Non, j'ai grandi en Bretagne.
Ok.
Ça va faire 20 ans bientôt que je suis à Paris, mais ouais, j'ai grandi en Bretagne.
Ok. Et donc, t'as grandi là-bas, mais t'as commencé à faire du rap, du slam, tout ça là-bas, ou c'est vraiment venant à Paris
Non, en Bretagne, au lycée, je faisais du rap déjà, ouais.
Ok.
Ouais. Et je suis venu à Paris pour faire du théâtre, et mon père habitait déjà à Paris, lui.
Ok. Ouais. D'accord. Et ton père, c'est ce que j'ai découvert tout à l'heure, parce que je suis allé sur ta page Facebook pour préparer un peu l'interview, et j'ai vu que tu as partagé une vidéo qui était très drôle, donc de ton père avec qui était en mise en parallèle avec une des meufs du la porte-parole du gouvernement. J'ai oublié son nom. Ouais, voilà, c'est ça.
Je sais pas qui a fait cette vidéo, mais c'est assez drôle, ouais. Une espèce de faux copie comique.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Bah, c'était pas tellement le côté copie comique qui m'a fait rire, c'est vraiment le fait qu'elle se rend pas compte à quel point elle dit des trucs.
Elle dit des trucs absurdes. Mais oui,
absurdes.
Oui. Ouais, tout à fait.
C'est incroyable. Et donc, ouais, donc.
Sur le fait qu'il y a beaucoup plus de retraités. C'est ça. Il y a beaucoup plus de morts chez les retraités que chez les actifs. D'accord.
Et ouais, du coup, c'était une blague de ton père.
C'est ça, ouais, qui disait que la retraite, c'était dangereux. De la retraite, personne n'en sort vivant, etc.
Ouais. Et donc, tu as toujours baigné là-dedans, en fait, via ton père
Plus ou moins. Bah, quand j'étais petit, mon père, il faisait pas ça. Il s'est reconverti assez tard, en fait. Et lui, il a commencé vers 38-40 ans à faire vraiment de l'humour, enfin à faire que ça.
Mm-hmm.
Avant, il était en Bretagne, il faisait un boulot normal, travaillait dans l'informatique.
Ok.
Ouais. Puis il en a eu marre, au bout d'un moment, il est monté à Paris. Puis
on avait ce débat l'autre jour dans un autre podcast sur les gens qui venaient du monde mathématique, scientifique, etc. Étaient beaucoup plus... avait des facilités pour commencer dans le stand-up, parce que c'est un truc, l'humour c'est un truc hyper
mathématique,
mathématique mais mécanique quoi. Tu vois, une blague qui marche une dizaine de fois va plus ou moins bien marcher après. Enfin, il y a une espèce de, et puis il y a le côté aussi abstraction et le côté, tu sais, se concentrer sur un truc vraiment absurde pendant très longtemps. Quand t'as fait beaucoup de maths, t'as un peu ce truc-là.
Peut-être, je suis pas du tout matheux, moi.
Et qu'un gars, tu sais, qui est pas du tout matheux, justement, il va avoir plus de réticence à se dire « Vas-y, je vais me concentrer sur ce verre pendant 3 heures et je vais en sortir des blagues, tu vois. »
Ouais, c'est possible, ouais.
C'était intéressant. Et donc, ouais, ton père a commencé très tard. Et, ouais. Et donc, toi, t'étais déjà... quand il a commencé, toi, t'étais à quel niveau? T'étais au lycée?
Moi, j'étais au collège-lycée, ouais, collège. Mais bon, quand j'étais petit, même quand j'étais en primaire, il commençait déjà à faire des spectacles en Bretagne, tout ça, parallèlement à son boulot. Ouais.
Okay.
Ouais. Et il est monté à Paris, ouais, j'étais au collège.
Ok, ouais. D'accord. Et donc il est monté, toi t'es resté, lui il est monté.
Moi je suis resté avec ma mère, ouais, c'est ça. Et puis lui il est monté à Paris, puis je venais assez régulièrement déjà à Paris. Et puis après le bac, que j'ai pas eu d'ailleurs, je voulais faire du théâtre déjà, donc je suis monté à Paris.
Ok, et c'est... lui qui t'a poussé un peu au début ou pas du tout
Non, de toute façon, j'ai toujours eu envie de faire du spectacle, moi, du théâtre, du cinéma, enfin peu importe, mais depuis que je suis petit, ouais, depuis que je suis tout petit, enfin je me suis jamais vu faire autre chose en fait.
Ok.
Ouais.
Et son type d'humour, toi, ça te correspondait ou pas du tout?
Alors, quand j'étais petit, je comprenais pas. C'est ouais, un peu particulier. Maintenant, oui, ça me fait beaucoup rire, il me fait beaucoup rire. Mais quand j'étais petit, ces spectacles, je ne comprenais pas trop. Non.
Même quand tu avais 15-16 ans, tu
sais. Si, ouais. Ouais. Mais quand il a commencé, quand j'étais en. Oui, 15-16 ans, ouais, là, et puis son humour a commencé à être un peu plus universel aussi, je pense.
Ok.
Mais non, quand j'étais petit, non, ouais, quand j'étais en primaire, je ne comprenais pas trop. Ça me faisait rire de le voir sur scène, mais non, ouais. je préférais les inconnus.
Ouais. Ouais, ouais. Bah, c'était plus visuel, quoi.
Voilà, ça me paraît.
Ça passe, Albert Mellet, c'est vraiment, ça passe par les mots, quoi.
Par les mots, ouais. Ouais.
Les jeux de mots, et même ça a plus longtemps.
Puis même des références, voilà, des jeux de mots, puis des références à l'histoire, à l'actualité que t'as pas forcément. Quand t'as... Mm-hmm.
Mais moi, je l'ai rencontré pour le coup, ton père, à Avignon.
D'accord.
J'étais en stage de fin d'études. Je faisais un truc dans la com et je faisais du théâtre aussi.
Ouais.
Et j'avais suivi une troupe de ma ville natale, là, du Puy-en-Velay, qui faisait sa saison à Avignon. Et moi, j'étais en stage chez eux. Je faisais leur com, en gros, tu vois, gérer la billetterie, je distribuais des flyers avec eux,
okay.
Gérer la relation avec les... Tu sais, à Avignon, t'as plus ou moins des prods ou des annonceurs, enfin pas des annonceurs, des propriétaires de théâtre qui viennent voir ton spectacle.
Ouais, c'est le but d'Avignon. Ouais,
ça, tu veux vendre ton spectacle, voilà. Donc je les aidais là-dessus. Et en fait, il s'est avéré qu'une des actrices, une des comédiennes du spectacle, qui a eu un problème de famille, qui a dû rentrer en plein milieu festival, ouais. Et je l'ai remplacée en fait. J'ai joué son rôle. C'était un truc de marionnette, donc ça va.
Ah oui.
Et du coup, j'ai joué son rôle, j'ai appris son rôle et tout. C'était marrant. C'était une belle aventure. On était sur. T'as déjà fait Avignon, toi?
Ouais, 3 fois.
Ah ouais, quand même. Moi, j'ai fait qu'une fois, ça m'a suffi.
Ouais.
Et on était sur une péniche, tu sais, quand tu sors d'Avignon là, sur le.
D'accord, c'était pas intramuros.
Non, non.
Ah oui, sur le, ouais, d'accord, près de l'île de la Barthelas.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment, quand tu sors là, le, ouais, ouais. à quelques quinzaines de mètres de, des remparts, là, t'as un cours d'eau et t'avais notre péniche là. On était trop bien. Parce que du coup, t'étais dans l'ambiance toute la journée, la folie d'Avignon.
La folie, ouais.
Et le soir, tu sortais, t'étais tranquille.
Ouais, ça te déconnectait un peu, quoi.
C'est ça. Toi, à chaque fois, t'étais dans Avignon.
Dans Avignon, mais à chaque fois, notre appart était en dehors des remparts.
Ouais, ouais, c'est quand même.
Ouais,
quand même bien.
Ouais, c'est important.
Et donc ouais, et c'est là que j'ai rencontré Albert Mélès, parce que j'avais un des, donc le mari d'une des actrices qui faisait la pièce, enfin en fait la directrice de la compagnie, son mari était fan et le D'accord. connaissait personnellement, et du coup on l'a rencontré, on a discuté, elle était très sympa, et c'est là que j'ai regardé ses vidéos sur YouTube et vraiment ouais. j'ai kiffé, alors que je connaissais pas du tout avant quoi.
Ouais, ouais.
Mais c'est marrant, il fait partie de ces artistes dans l'humour qui ont un public pas du tout à Paris, j'ai l'impression.
Ouais.
En tout cas, qui tourne beaucoup en dehors de Paris.
Il tourne beaucoup, il joue à Paris de temps en temps. Il se fait des. Là, il joue l'année dernière, il a joué au Café de la Gare pendant un ou deux mois. Tu vois.
Okay.
Mais il a son public, ouais.
Ouais, il était venu après au Puy-en-Velay, justement, en Auvergne.
Ouais,
il a fait une date et il fait en fait plein de petites dates comme ça. Il est sur le circuit.
Ouais, il tourne tout le temps. Ouais.
Ah, c'est trop bien ça. Mais c'est bizarre, justement, on en parlait. Par rapport au stand-up, pour faire un peu la boucle, t'as pas trop ce circuit-là pour le stand-up. Tu peux pas trop aller faire des petits bars à droite à gauche, alors qu'aux États-Unis, dans les autres pays, t'as ce truc-là où tu fais tout le tour des États-Unis, juste des bars et tu gagnes ta vie comme ça, quoi.
Ouais, mais c'est encore un peu récent en France, je pense. Ça, mm-hmm. Je pense que ça se fera, mais ouais, faut le temps que ça prenne. Après, enfin, ce que fait mon père, c'est pas très éloigné du stand-up. En fait, il est sur scène avec un micro et puis, enfin, il a pas de micro, mais il est sur scène et puis il raconte des blagues.
C'est ça.
Finalement, c'est pareil.
Mm-hmm.
Mais ouais, je pense à l'avenir, sinon pour le stand-up. Ouais.
Mm-hmm. Vous avez déjà bossé ensemble ?
Non. Non, j'aimerais pas trop, je crois.
Ah ouais ?
Ouais, non, c'est bizarre.
Mais il a déjà vu ce que tu faisais ?
Bien sûr. Ouais, non, il soutient à fond ce que je fais, mais non, on n'a jamais bossé ensemble. Et puis, je pense que mon père, il est assez solitaire aussi dans le boulot.
Ouais.
Ouais. Il a toujours bossé que tout seul finalement.
Et, ok. Ouais. Et toi, pas justement, t'as préféré bosser en trio?
Ouais, ou... j'aime bien le côté équipe. Ouais. Mais là, du coup, je suis en train d'essayer de faire un truc tout seul aussi. Ouais,
mais les autres du trio te soutiennent quand même. Ils sont
sûr.
Genre à t'aider pour l'écriture, pour la mise en scène, tout non. ça. Ou vraiment non, là, non. tu gères tout de à
tout seul. Après, pour l'instant, tout seul. Après, j'aimerais bien bosser avec quelqu'un pour la mise en scène. Ouais.
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 Et donc. Pour parler un peu du trio, vous êtes vraiment rencontré à Disneyland ou c'était une joke ?
Bon, là, non, c'est une joke. En fait, notre truc, c'est qu'à chaque fois qu'on nous demande, on raconte un truc différent, en fait.
Ok.
Je casse un peu le mythe.
Vas-y, raconte-nous un autre truc.
C'était rencontré à Disneyland.
Je sais plus. J'ai regardé des trucs de toi, puis le premier truc sur lequel je suis tombé.
Ah oui, je crois que c'était chez Jackie. L'émission de Jackie.
C'était une émission de télé, ouais, je crois. Ouais.
Non, pour de vrai, on s'est rencontrés sur les scènes slam, en fait, tout simplement. Ouais. Et okay. On a fondé le trio, mais on se connaissait pas beaucoup encore. On aimait bien ce que chacun faisait, mais on n'était pas encore potes. En fait, on est devenus potes à force de bosser ensemble. Et...
Mais le trio, c'est fait par nécessité pour répondre à, je sais pas.
On faisait du slam et ça marchait pas trop mal ce qu'on faisait sur les scènes.
Ouais.
Et puis, on avait vraiment envie de faire un truc à partir de ça.
Vous vouliez faire un spectacle au moment où vous étiez ensemble ?
Okay. Et pas un spectacle de slam où chacun dit son texte et tout l'un après l'autre. On voulait vraiment faire un spectacle d'humour avec dedans des textes de poésie, quoi, des poèmes.
Et est-ce qu'il y avait des blagues qui riment ?
Ouais.
Ok. Parce que j'ai toujours rêvé de faire ça.
Ouais, ouais.
J'ai jamais eu le...
C'était un peu notre truc, ouais, faire de l'humour en rime. Ouais, voilà, des punchlines, quoi. Ouais.
Ok. Je trouve ça tellement difficile au final.
Ouais.
D'arriver à faire.
Je trouve ça moins difficile finalement parce qu'au moins t'as une contrainte. Tu pars pas de rien, tu dis pas bon, allez, je vais faire marrer. T'as okay. la contrainte de la rime
qui t'inspire en fait.
Voilà, qui t'aide à trouver des blagues.
Ouais. Tu réfléchis à tout ce qui est rime et après puis, tu te dis ok, la blague ça va être ça.
Exactement.
Ouais, peut-être que ça favorise au final la surprise parce que tu vas mettre ensemble des mots qui ont vraiment rien à voir juste parce qu'ils riment quoi.
Ouais, c'est vrai aussi. Ouais,
ouais c'est vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais ouais, j'ai toujours eu ce truc. Je me suis dit, justement, il y a un film avec Eddie Murphy qui est sorti là, il y a quelques mois.
Ouais.
Qui s'appelle Dolemite is My Name.
Oui,
c'est sur Netflix. Et justement, c'est un biopic sur un stand-upper un peu raté qui a arrêté. Qui a arrêté son stand-up et qui s'est dit vas-y maintenant je vais faire un personnage qui va s'appeler Dolemite et qui fait justement des rimes et des blagues en même temps, quoi.
Ouais, et moi j'essaie de, je suis en train de travailler là-dessus, j'essaie de faire ça dans le stand-up. Je cherche comment l'amener dans un set de stand-up, quoi, de
bah,
faire
lui,
des
dans
rimes sans faire du slam, mais mettre des punchlines qui riment.
Bah, lui, il a des musiciens derrière qui lui donnent un petit rythme un peu style slam grand corps malade, tu vois, pas un truc hyper rap, mais vraiment un truc. Mais c'était plus funk que vraiment un truc posé à la grand corps malade. Et il pose dessus. Après, c'était très. C'était des jokes très sexuels, très aussi.
Ouais, Eddie Murphy, quoi.
Ouais, c'est ça. Et très aussi. En fait, ce qu'ils disent dans le film et ce qu'il fait dans le film, c'est qu'il va avoir des gars de la rue, en fait, des SDF, qui ont des vieilles blagues de SDF qui se racontent entre eux, ou je sais pas comment ils ont ces trucs. Et il les note et il va les faire sur scène, en fait.
D'accord.
Donc il commence avec des vols de vannes, tu vois.
Donc copie SDF, quoi.
Ouais, c'est ça, copie SDF. Je sais pas si ça marcherait en France. Quoique des fois, t'as des SDF qui ont des trucs marrants à dire.
L'autre fois, là, j'en ai un.
Ah
il
ouais
me demande excuse-moi, t'auras pas une petite pièce, s'il te plaît, je te rends ça demain.
Mais tu sais qu'une fois, je me suis dit, il faudrait, je sais pas, créer une asso. D'humoristes où on va aider les SDF, mais pas en leur donnant de la bouffe, de l'argent, mais en leur donnant des blagues.
Ouais.
Et ça pourrait peut-être les aider à je sais pas, à s'en sortir.
Ouais, pourquoi pas, ouais. C'est une bonne idée. Ouais.
Je sais pas si, en fait, en le disant, je me suis rendu compte, finalement, on va les aider à faire la mendicité. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée?
Est-ce que c'est but?
Sinon, on pourrait juste faire un spectacle et on leur reverse
et
l'argent.
Voilà, ouais, c'est pas mal mieux aussi. Mais, ouais. Et donc, ouais, The Limit is My Name, bah, je vais le regarder ce soir, tiens. Et c'est cool, il est cool le film. Ouais.
Vraiment bien. C'est un peu. T'as vu Disaster Artist?
Oui.
Ben c'est un peu dans cette lignée-là. Cool. Le gars est un peu fou.
Ouais.
Mais ce qui est bien par rapport à Disaster Artist, c'est que c'est. Tu vas pas. Le film se moque pas de lui, en fait.
D'accord. Ouais.
Le film est vraiment sur. Il est fou. Il a aucune mesure de que ce qu'il fait, c'est un peu absurde, etc. Mais il le fait et au final, ça lui réussit. Et en fait, il réussit à créer un parce qu'en fait, c'est aussi
c'est
pareil, il réalise un film, en fait. Mais du coup, en fait, c'est un des premiers films avec des noirs dedans. C'est un film qui est n'importe quoi. Genre, il y a du kung-fu, il y a des courses-poursuites en voiture, il y a des meufs qui sont à roller et qui tapent d'autres gars. Enfin, c'est vraiment, il a mis tous les ingrédients d'un film qui, selon lui, serait cool. Mais le scénario a ni queue ni tête. Et l'acting est vraiment pas ouf.
Ouais.
Mais c'était tellement un truc de fou à l'époque pour les gens de voir un film avec des noirs dedans et qu'il soit au cinéma. Et du coup, il a dû l'auto-financer. Bah, ça a cartonné, quoi.
Yes.
Et le film est justement sur c'est plus un truc d'espoir sur en gros croyez en vous même si vous êtes complètement à côté de la plaque ça peut marcher quoi genre et le gars c'est un entrepreneur il a trouvé l'argent pour faire son film tout seul alors qu'il avait rien il s'est démerdé et puis il a réussi à faire son truc donc c'est ça que j'aime bien par rapport à l'autre film Disaster Artist où c'est plus un gars blanc on sait pas trop comment il a toute cette thune puis il fait le truc et voilà, c'est plus
c'était
un truc
cool
sur...
aussi c'était bien cool
non c'était Artists. Cool
mais non mais puis en plus ouais ça fait plaisir de revoir Eddie Murphy dans un bon film alors
ouais bah là il y en a plein qui vont sortir il y a la suite de comment s'appelait ce
du
film
flic de Beverly Hills non
non ça peut-être je sais
ouais,
pas
j'ai
mais
parler, ça... ouais,
mais il y en a un qui est vraiment filmé c'est
un prince à New York.
Un prince à New York, c'est ça.
D'accord.
Ouais. Ils ont filmé la suite, là ça va sortir,
ouais.
C'est sûr.
Ouais, mais après les suites de 20 ans, 30 ans, j'ai pas trop d'exemples de bonnes suites qui ont été faites 20, 30 ans après, tu vois.
Ouais, c'est ça. C'est ça.
À part les Bronze et 3, bien sûr, mais.
Bah, Men in Black, par exemple, c'était pas.
Ouais, mais j'ai jamais été un grand fan de Men in Black.
Ouais, ouais, y a pas que des bons exemples. Bah, si, Star Wars, ça va, ils ont réussi à.
Ouais.
T'as pas aimé?
Mais je sais pas, ma cam Star Wars en fait,
okay.
Ça me fatigue.
Ok.
Ouais. Je préfère les films avec des flics qui tuent des gens ou alors des films chiants avec des gens qui se parlent. J'aime bien.
Ok. Ouais. Bah, il y a quoi comme film avec des flics qui tuent des gens qui est ressorti
Mais il y a.
Ah bah,
Les Misérables.
Ouais, c'est vrai. Je pensais pas du tout à ça, mais
je
ouais.
Sais pas, c'est le premier qui m'est venu.
Non, il y a. Ça commence à. Non, c'était il y a 2 ans, je crois. Denzel Washington.
Equalizer. Equalizer, ouais, c'était. Ouais.
Mais il était pas ouf.
Pas ouf, non.
Non, pour le coup, c'était un bon exemple de film pas ouf, d'une suite pas ouf, quoi.
Ouais,
en fait, Equalizer, en le voyant, j'ai eu l'impression que c'était un peu décousu. Et après, j'ai vu qu'en fait, c'était à la base écrit comme une série. et que pour des raisons de X ou Y, peut-être que Denzel n'a pas voulu faire une série et s'engager sur le long terme, ils l'ont transformé en film. Et en fait, le film, il y a presque 4 ou 5 histoires différentes dedans. T'as pas le déroulé classique d'un film comme ça, tu vois, où t'as un méchant, et puis à la fin, c'est le truc épique entre le méchant et le héros, et ça se règle. Là, t'as presque 4 méchants, puis il y a 4 gros climax dans le film, ça faisait un peu bizarre. Ça faisait un peu décousu.
J'ai regardé une série, c'était l'inverse.
C'était long.
Je suis pas un grand bouffeur de séries, parce que quand j'en regarde, je binge trop et je fais rien de ma vie, j'ai plus de life, donc je regarde pas trop de séries. Mais là, je me suis mis dans 13 Reasons Why.
Ah ouais.
C'est pas mal, hein, mais la première saison, mais c'est long à mourir. Ouais. Ça devrait être un film, en fait, tout simplement. Là, ils font traîner le truc sur. Enfin bref.
On sait puis maintenant, ils font aussi des films-séries où tu sais, c'est 4 gros épisodes.
Bah ça, c'est pas mal. Je trouve ça pas mal. Il y en avait un qui était pas mal là, dans leur. When They See Us, dans leur regard.
Ah, j'ai pas vu
T'as
ça.
T'as vu ça?
C'était quoi ça?
C'est histoire vraie sur des petits Renois à Harlem, je crois. Qui se font accuser de viol, mais à tort.
Et j'ai vu la bande annonce.
Une histoire scandaleuse qui se passe dans les années 80. Non, vachement bien. C'est là que je te la conseille.
Ouais, bah là, j'ai plus le temps. En fait, on a ouvert.
C'est bien ça.
Ouais, on a ouvert le studio il y a presque 3 semaines et on est là 24 heures sur 24.
Ça charbonne.
Ouais, ça charbonne. Mais c'est cool. C'est cool. Ça donne.
Carrément.
Ça donne envie de bosser. Moi, je fais plein de podcasts. On a plein de gens hyper intéressants qui viennent enregistrer leurs podcasts au studio. Ouais.
Cool.
Ouais. Plein de sujets hyper variés, du coup, à chaque fois. L'idée du studio, c'est que n'importe qui peut venir enregistrer son contenu de manière illimitée pour un peu moins d'une 100 € par mois. Tu vois.
Et le pilote est gratuit.
Et le pilote est gratuit, tout à fait. Je vois que tu as bien regardé les autres vidéos. Pour nous, l'idée, c'est surtout de permettre à plein de gens de faire des podcasts, parce que t'as énormément de gens, en fait, qui ont des choses intéressantes à dire, mais qui n'ont pas soit l'aspect technique, soit l'aspect financier pour se payer un studio, etc. Et alors qu'ils ont vraiment des trucs intéressants à dire. Là, les gens qu'on a, ils sont sur plein de sujets hyper variés, mais c'est hyper intéressant à chaque fois, quoi. Cool. Là, on a, par exemple... Une nana, Mélissa, qui fait un truc qui s'appelle l'Afropolitaine.
Ouais.
Et donc, elle invite à chaque fois des gens de la communauté afro en France pour parler de différents sujets qui touchent plus ou moins justement à leur africanité.
D'accord.
Et son premier épisode, c'était elle raconte son expérience parce qu'elle était chez les Témoins de Jéhovah pendant toute son enfance.
Ouais.
Et elle raconte comment elle en est sortie avec sa famille. Elle raconte le côté secte aussi. À quel point, comment ils font en fait pour te bloquer là-dedans et que t'es
plus sectes,
ouais, c'est ça exactement. Et c'était incroyable. Et à chaque fois, elle ramène des invités, mais sur des sujets différents. Mais à chaque fois, je suis choqué par ce qu'ils
racontent. Mais ça va le podcast ?
L'Afropolitaine.
Ok.
Je te conseille.
C'est intéressant.
Ouais, vraiment.
Ouais.
Et donc pour revenir à ton trio, à la base, donc c'était slam et humour, bon. C'est ça ? C'est resté là-dessus tout le
temps ? Alors, on a fait un spectacle, donc le Grandiloquent Moustache Poésie Club, notre premier spectacle qu'on avait commencé dans les bars et qui a bien marché. On l'a tourné pendant 10 ans, on a joué au théâtre du Rond-Point, aux Trois Baudets avec.
Ah ouais ?
On l'a vraiment tourné pendant 10 ans.
Et quand tu dis vous l'avez tourné dans les bars au départ, c'est genre concrètement comment tu montes un spectacle comme ça et que tu commences dans les bars, c'est quel bar
C'était le Café de Paris, tu vois le Café de Paris à Ménilmontant, ils ont une salle derrière, une salle de spectacle en gros,
où
il y a une scène et tout, et voilà, on a commencé ici. On a monté à l'arrache, hein, comme ça, on est allé voir le Café de Paris, on n'avait même pas de spectacle, mais on s'est mis une date, comme ça nous mettait dans la merde et on était obligé d'avoir un spectacle à cette date-là.
Café de Paris, ça marche comment? Il te loue la salle?
Non, il te file la salle et puis...
C'est une date.
Une date, puis un partage sur les consos, okay. Un truc comme ça. Quoi.
Ouais, il n'y a pas d'entrée payante, c'est l'entrée gratuite.
Si, on faisait une entrée payante quand même. On faisait une entrée payante dans la salle, parce qu'il y a une salle à l'arrière. Quoi, tu vois.
Ok, ouais, je suis déjà allé.
C'est compliqué de jouer, parce que c'est les gens bouffent et tout.
C'est en mode cabaret un peu.
Ouais.
Mais cette salle est vraiment belle, hein,
c'est une belle salle, mais je crois qu'Edith Piaf avait chanté dans cette salle, tout ça. Ouais, c'est un vieux lieu. Et donc on a fait ce spectacle là pendant 10 ans. Parallèlement, on a fait un autre spectacle parce qu'on anime pas mal d'ateliers d'écriture aussi dans les écoles, collèges, lycées. Et donc on a fait un spectacle pour enfants qui s'appelait le Petit Loquent Moustache Poésie Club, sur le même principe, humour et poésie. Et là, en ce moment, enfin là, on est en fin de tournée avec notre dernier spectacle, qui est la Moustache Academy, qui est un concert de rap pour enfants.
Et pourquoi vouloir s'adresser aux enfants, justement ?
Bah, parce qu'on aime bien bosser avec eux, déjà. On faisait des ateliers d'écriture et... Au départ, c'est parce que ça nous gênait quand on faisait des ateliers d'écriture, ils venaient voir le grandiloquent notre spectacle, mais qui n'était pas du tout adapté pour eux, tu vois. Qui est...
ouais.
Et donc on s'est dit, il faudrait qu'on fasse un spectacle pour eux, et ça nous a plu, et voilà.
Ok.
Et donc on en a fait deux. Voilà, là, maintenant, on fait une petite. Enfin, on continue de bosser ensemble, on fait un podcast qui s'appelle La Moustache est unanime, où on parle de ce qu'on aime bien, de ce qu'on n'aime pas. Mais pour l'instant, on fait une pause pour un spectacle, on essaye de chacun de voler de nos propres ailes.
C'est la réponse classique de boys band qui se séparent.
Exactement.
On essaie chacun de voler de notre propre scène, mais on reste potes.
Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Ouais.
Ouais, t'avais ça. Bah, justement, en parlant de.
On c'est pas vraiment un boys band,
mais t'as la section d'assaut, apparemment, ils vont se remettre ensemble.
D'accord. Ok. Ouais.
Il y avait eu des grosses embrouilles et tout. Je sais pas si tu.
Je vois, mais je suis le rap un peu après.
Toi, t'es plus quoi dans le rap?
Je suis plus quoi dans le rap.
T'écoutes quoi? C'est quoi ton...
Qu'est-ce que j'écoute? J'écoute plein de trucs. En ce moment, j'écoute West Side Gun. J'écoute pas mal de rap américain.
Ok.
Ouais. Dans le rap français aussi, il y a des trucs bien. Hein, dans les nouveaux trucs français, qu'est-ce que j'ai... Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Samir Hamad. Je sais pas si tu connais Samir Hamad.
Non, ouais, pas du tout.
Il a une plume. Ah ouais. Il a une plume de ouf. Ouais. Pour moi, c'est chaque phrase est une punchline. J'aime beaucoup Samir Hamad. Il rappe super bien, un mec de Montpellier. Ouais.
Ok.
Mais il est pas tout jeune, hein, il a 40
piges. Toi, t'es plus sur le rap un peu axé sur vraiment sur l'écriture, la poésie?
Pas forcément, non. Le bon rap, j'aime bien aussi le côté ego trip. Genre le rap, c'est cool, on est les meilleurs, tout ça. Ouais, ça me va aussi. Hein.
Ok.
Ouais. Non, parce que le rap axé sur l'écriture, la poésie, ça peut être super cool, mais comme ça peut être super chiant aussi.
Ouais, c'est clair. Mais il y en a en plus même des jeunes en ce moment qui.
Ouais, il y a Dinos dans les jeunes que j'aime beaucoup.
Ouais.
Qui écrit super bien.
Ouais, grave. Il y a dans les anciens, moi, que j'aime beaucoup. Laura Luciano, j'adore.
Ouais, c'est un classique. Ouais. Mm-hmm. Grosse plume.
Ok, et donc là, t'es à l'étape où donc, tu te consacres entièrement au stand-up.
Ouais, là, j'ai.
Tu faisais un peu en parallèle de.
Voilà,
de
c'est moustache. Ça. Ouais. Je faisais un petit peu comme ça. Mais là, ouais, j'essaye de mettre là-dedans, d'écrire mon spectacle, tout ça. J'essaye de faire le plus de plateaux possible. On anime un plateau aussi avec un de mes collègues, du coup, un des moustachus qui fait un peu de stand-up aussi, qui est dans l'impro aussi, qui se lance dans le stand-up. On a un plateau tous les mois au Lou Pascalou à Ménilmontant, Moustache Comedy Club.
Toujours la moustache. Et comment t'as fait cette transition entre le stand-up et ça a toujours été un peu dans ta tête?
Ça faisait longtemps que ça me titillait, ouais. Puis un jour, j'ai vu le spectacle de Ben. Je sais pas si tu connais Ben.
Mm-hmm.
Pas copie comique. Hein. Ben, j'ai vu son spectacle. J'en étais en tournée. Puis voilà, il passait. J'ai vu son spectacle et ça m'a vraiment donné envie de me lancer dans le stand-up, quoi, de faire des blagues. Je me dis, ah ouais, c'est possible de faire des blagues comme ça. Ouais. Mais je suis pas un grand spécialiste du stand-up. J'ai pas une culture stand-up américaine, tout ça. Mm-hmm. Je suis pas un grand spécialiste. Mais j'aime bien le format, quoi. T'es tout seul sur scène, tu fais rire les gens. Mais au début, c'est abominable.
Ah ouais.
Ah non, mais c'est horrible le stress que ça m'a mis. J'ai jamais connu.
Alors
ça.
Alors que pourtant, t'as fait plein de grosses scènes.
Ouais, mais j'ai jamais eu autant de le trac.
C'est le fait d'être tout seul ou c'est le fait d'être tout seul, t'adresser au public vraiment.
T'adresser au public, devoir être cool et devoir les faire marrer. C'est plein de paramètres compliqués quand même. C'est
Ouais, c'est vrai qu'au final tu dis devoir être cool, mais je me rends compte que c'est vraiment une dominante hyper, qu'on même néglige du stand-up parce qu'il faut vraiment que t'aies l'air détendu en fait.
Mais je pense que c'est la base en fait.
Vraiment, ouais.
Parce que même si t'as pas des grosses vannes ou quoi, à partir du moment où t'es cool, le public est cool aussi, tu vois, le public est cool avec toi.
Exactement, ouais. Et tu leur transmets une micro-goutte de stress, ça y est, c'est fini quoi, ouais. Ils le voient tout de suite.
C'est ça.
C'est incroyable, et tu le vois que les meilleurs, tu regardes je regarde beaucoup justement les Américains, mais tu vois que les meilleurs, ils ont vraiment ce truc là où t'as l'impression que
limite
sont plus à l'aise sur scène que dans la vie, quoi.
Ah, ouais. Ils sont complètement, ouais.
Mais c'est vrai que c'est dur, ça prend du temps avant d'avoir ce truc là de pas stresser, enfin, ou de pas le montrer, en tout cas
de pas le montrer, bien sûr, stresser c'est normal, mais de pas le montrer,
de prendre ton temps, enfin même pas forcément prendre ton temps, parce qu'il faut, il y a quand même, parce que quand tu dis prendre ton temps,
parce que il faut avoir le bon timing, quoi.
Exactement. Exactement. Et c'est ça qui est difficile, d'avoir à la fois le truc où tu te détends et t'es cool, tu rushes pas dans tes vannes et tout, mais en même temps quand il faut y aller, enfin. C'est ça, tout un truc.
C'est ça, et les premières fois avant de monter sur scène, j'étais là, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Pourquoi je suis pas consultant marketing comme tout le monde, quoi? Qu'est-ce qu'à foirer chez moi? C'est horrible.
T'as jamais eu de taf à côté de la scène?
Genre, corporate, un peu. Je bossais chez Tati, des petits boulots de merde.
Ok, mais t'as jamais fait un vrai, une vraie carrière de, dans un
non,
métier
jamais, non, non, non. Ouais. D'ailleurs, si ça devait s'arrêter, je sais pas ce que je foutrais.
Ouais.
Non, non, j'ai pas de plan B.
Donc, mais là, tu vis à 100% de la scène ou t'as d'autres trucs?
Je suis intermittent du spectacle, ouais. Ouais.
Grâce à ton spectacle.
Grâce au spectacle, ouais.
Ok, mais ouais. Ça, c'est faut que tu refasses un nouveau spectacle.
Exactement. Pour ouais. C'est bah oui, c'est jamais un truc acquis, ouais. Ouais.
Et c'est concrètement là, il faut que tu sortes quelque chose dans combien de temps à peu près pour.
Putain, tu mets la pression là.
Non, parce que j'ai jamais été intermittent. Je vois. Ouais. Et c'est vrai que dans le stand-up, on n'en croise pas tant que ça au final.
Ouais, bah de plus en plus, mais.
De plus en plus, heureusement, mais vu que la plupart des scènes ne sont pas.
Bah ouais, c'est au chapeau, cachet, bien sûr.
Ouais. Ouais.
Donc là, concrètement, non, faudrait que. Après, je cherche d'autres trucs à droite, à gauche, des trucs payés, des plans, mais j'aimerais bien avoir un truc pour pendant 2 mois, en fait.
Dans 2 mois, ok.
Ouais.
Et là, t'en es où après
Bon, je suis en écriture, mais là, je cherche des plateaux en ce moment-là. Je cherche des plateaux pour roder, et c'est pas si facile, hein. C'est chiant de chercher des plateaux. Envoyer des messages, tu as beaucoup de ghosting et tout, c'est... mais je comprends en même temps, c'est comme nous, on a un plateau, on nous demande beaucoup, et comme on n'a qu'un plateau par mois, qu'on n'invite que 4 personnes par mois, il y a une grosse liste d'attente aussi, c'est pas...
Bah ouais, puis tu priorises comment
Mais puis voilà, et puis on veut un plateau équilibré, on veut qu'il y ait des mecs, des meufs, tout ça, des styles différents, etc. Donc, ouais.
Non, c'est clair. Et mais justement, moi, il y a une technique... Parce que je suis allé au Canada là, pendant un an et quelques.
Mais là, t'es revenu là
Je suis revenu là, il y a quelques mois.
Ok.
Et du coup, j'ai recommencé à zéro là-bas, je connaissais personne. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y a une technique qui marche plutôt bien. Si tu vas sur les plateaux toi-même en tant que, ouais. que spectateur, bon, c'est un petit budget, parce que si, enfin, là-bas, les soirées sont payantes à chaque fois. Donc, tu vois, $5 par-ci, $5 par-là. Mais au final, d'aller voir les gens, de les rencontrer, ils vont toujours plus... Enfin, surtout là-bas où ils ont cet esprit-là, ils vont vraiment valoriser.
Ils ne connaissaient pas, donc ils ne savaient pas ce que tu faisais, mais...
Non, mais en fait, avant même d'envoyer un message, ou alors des fois, j'envoyais le message juste avant, tu vois, le jour même, et j'allais sur le plateau. Enfin, j'envoyais un message en disant, voilà ma démo, on ne se connaît pas, mais je viens sur le plateau ce soir, on pourra se rencontrer et tout. Et c'est vrai que ça payait plus que de juste envoyer un message et d'attendre.
Bah oui.
Parce que tu es juste un parmi. En plus, là-bas, ils sont hyper nombreux aussi. Il y a moins de place.
Il y a moins de plateaux. Ouais. Tu en as fait beaucoup là-bas
Bah, j'en ai fait beaucoup moins que si j'étais resté à Paris, pour le coup. Ouais. Il n'y en a pas énormément. Enfin, il y en a, mais il y a énormément d'humoristes très bons, en fait. C'est ça aussi qui est compliqué.
Bah oui.
Et ouais, c'est pas facile. Tu as des longs temps d'attente, etc. Mais ça valorise quand même le travail dans le sens où. Vu que tu attends plus, tu vas plus te préparer. Tu vois. Des fois, tu as ce phénomène. Enfin, moi, j'avais à Paris où des fois, tu bookes plein de trucs. Puis entre chaque truc, tu t'enchaînes et tu n'as pas trop le temps de travailler.
Ouais, c'est une façon de se préparer
ouais,
aussi, d'enchaîner. Tu vois, c'est une façon de bosser aussi, je pense.
Non, c'est clair. Mais c'est vrai que des fois, je me rendais compte que je travaillais, enfin que j'aurais pu plus travailler sur certains trucs. Tu vois, rien que le fait de faire une scène, de s'enregistrer et puis d'écouter après... de retravailler un petit peu entre chaque scène des fois tu n'as pas le temps de le faire à Paris si tu te forces pas quoi parce que tu enchaînes des fois dans la même soirée tu peux en faire plusieurs mais là-bas tu avais vraiment cette ce qu'ils appellent work ethic tu vois de l'éthique de travail ça et beaucoup plus qu'ici quoi. Bah après c'est aussi parce que ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils en font. T'es jamais allé toi à Montréal?
Non, jamais. Non.
Bah, j'aimerais bien.
Je suis allé à New York, mais pas à Montréal.
T'as fait les comedy clubs à New York?
Non, c'était très court, j'ai même pas eu le temps de faire un comedy club. Non.
Ok. C'était il y a longtemps?
C'était il y a deux ans. Ouais.
Ok.
C'était en période de Noël, il faisait super froid.
Ah ouais, c'est vrai que là, moi je suis allé en été. L'été, au contraire, hyper chaud. Quasiment canicule, c'est compliqué là-bas. Ok, bah écoute, je voulais te parler de ça. Donc là, tu prépares ton spectacle sur les plateaux à Paris.
Ouais, j'essaye de roder. Je teste des vannes pour l'instant. Hein.
Donc c'est quoi ta dynamique de travail? À chaque plateau, tu testes des trucs différents? Tu rodes par petits bouts? C'est quoi
par petits bouts, ouais. Quand j'essaye de roder que du nouveau, c'est compliqué. Donc chaque fois, j'ai des trucs déjà rodés, puis j'essaye de par petits bouts d'installer du nouveau, de tester les trucs.
Et ton écriture, tu as un thème de spectacle ou tu écris en fonction des sujets qui te viennent?
Je parle de moi.
Ouais, ouais.
Moi. Ouais, ouais.
Ça change beaucoup par rapport au spectacle d'avant? avec les trois gars, avec les deux gars.
Ouais, bah là c'est vraiment, c'est la première fois que j'écris un spectacle tout seul, vraiment que moi tout seul, donc ouais, c'est compliqué, ouais.
Mais je parle plus en termes de thématique. En termes de thématique. Est-ce que quand tu faisais du slam humoristique entre guillemets, tu parlais de toi aussi ou
ouais, c'était... je parlais de moi aussi, ouais.
Donc ça va en fait, c'est dans la continuité.
Ouais, c'est ça. C'est ça.
Ok. Donc les thématiques que tu abordes là, donc c'est autour de toi, mais tu vas plus parler de trucs pour que les gens situent un peu ton, oui, ton humour, tu vas plus parler de trucs qui t'arrivent au quotidien, d'anecdotes, ou c'est vraiment tu vas analyser un peu, je sais pas, la société de ton point de vue.
Ouais, j'analyse plutôt mon quotidien ou le titre de mon spectacle pour l'instant c'est La vie c'est une période compliquée.
La vie, voilà, c'est une période compliquée.
Je parle beaucoup de mes galères, de mes trucs un peu absurdes qui m'arrivent dans la vie, ouais.
Ok. Et c'est quoi le dernier truc qui t'est arrivé hein?
Ouais, tu me prends de bord, là.
Je sais pas, un truc que t'as pas encore testé, que tu te dis, ah, ça, c'est intéressant.
Ouais, putain, je m'attendais pas à ça. Du coup, je sais pas, là, j'écris des trucs en plus ce matin, mais ouais, là, c'est compliqué. Je parlais de ma... Non, j'ai pas la vanne, là, en tête, où je parle de...
Non,
ma...
c'est... l'idée, c'est pas de faire rire, c'est ouais, juste de... parler du sujet.
Je parle de ma grand-mère qui est décédée en décembre. Même.
Ok.
J'ai testé une blague l'autre fois, ça n'a pas marché du tout.
C'était quoi ?
C'est où je disais, voilà, bon, pendant les vacances, j'ai enterré ma grand-mère. Enfin bon, je ne l'ai pas vraiment enterrée. Hein. Je me suis pas levé le matin en disant non, dans un premier temps, elle est décédée. Et tout. Et ça passe. Ouais. Mais bon, après, il y a plein de blagues qui mettent du temps avant de fonctionner. Et un jour, elle fonctionne. Ouais, tu ne comprends pas pourquoi tu as trouvé le truc. Et, ouais.
Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que sur ces sujets-là, c'est plus compliqué. Faut vraiment être.
C'est-à-dire que je l'avais sorti en plus au début de mon set, donc les gens connaissaient pas encore mon personnage, savaient pas encore qui j'étais, et ils se demandaient si est-ce que c'est vraiment un psychopathe ou pas en fait. Forcément, ils me connaissaient pas.
Ouais, bah c'est l'humour un peu. Tu sais, quand tu vas autour de ça, des trucs un peu tristes comme ça, c'est sur des petites vannes, je trouve, c'est plus dur.
Ouais.
Si tu racontes une anecdote un peu longue, puis je sais pas, tu racontes l'enterrement, puis tu racontes tout ce qui s'est passé dedans.
Exactement.
Le global est triste, mais il y a des petites actions qui peuvent être drôles, faire rire de la mort.
C'est le retour
mort,
qu'un pote m'a fait. Il m'a dit voilà, t'aurais dû faire ça, ouais, plus installer le truc tranquillement. Là, c'était bam, c'était trop, et puis au tout début de mon set, quoi. Donc.
Moi, j'avais une vanne comme ça sur. je dis par rapport à Halloween, chercher une vanne sur Halloween.
Ouais.
Et c'est vraiment un one-liner, mais il est trop triste. Si je dis cette année, je me suis déguisé en l'homme invisible en hommage à mon père pendant toute mon enfance.
Oh. Non, mais je trouve ça cool. Mais moi, j'aime bien les blagues tristes.
Ouais,
les
moi aussi, mais le public va jamais rire. Ils vont être là.
Ouais, mais je sais pas, il y a un truc, quoi. Il y a une réaction des gens. Non, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien. Mais moi, mes blagues préférées, même dans le stand-up, les blagues de stand-up préférées, c'est les blagues un peu. Un peu triste, un peu où c'est, tu tapes pas forcément une grosse barre, mais enfin il y en a une de Joseph Roussin que j'adore, ma préférée, je crois, c'est quand il dit ouais, j'aime bien jouer à Où est Charlie, mais j'ai pas besoin de chercher Charlie, juste savoir qu'il est là, ça me rassure. je trouve ça trop poétique en fait.
Ouais, c'est mais pour le coup, c'est pas triste.
C'est un peu mélancolique peut-être. Voilà, ouais, mélancolique. C'est
ça. Mais des fois, quand c'est vraiment triste, genre tu parles de divorce, de mort et tout, les gens, tu sais, ils vont un peu.
Ouais,
bloquer,
mais c'est ce
quoi.
Que je préfère. Je préfère ça plutôt qu'un mec qui me parle de son tube de dentifrice. machin, ça, je m'en fous.
Ouais, c'est clair. Mais c'est quand même un art. Mais c'est là où, ouais, il y a.
Ouais, je pense que ça part de la tristesse. En fait, c'est.
Bien sûr.
C'est, comme je dis, c'est dire tout drôle ce que les gens pensent tout triste.
Ouais.
En fait, voilà. C'est optimiser son pessimisme un peu.
C'est clair, mais je me rends compte quand même que j'ai du mal à le faire sur des petites blagues comme ça, quoi.
C'est
vrai que quand t'as le temps de mettre la situation, etc., et la situation globalement est triste, mais il y a des petits trucs que tu remarques dedans qui cassent ce côté triste. C'est drôle, mais
ouais,
c'est...
et puis même comme un mec, il y a des mecs qui t'amènent, qui arrivent à t'amener un truc un peu triste et tout, et puis d'un coup bam, ils te sortent une grosse blague et t'es encore plus mort de rire que s'il avait pas installé le truc juste avant, quoi. Parce que comme on dit souvent, t'as des fous rires aux enterrements, quoi. C'est
ouais, puis je pense c'est peut-être aussi des fois un truc de distance. Enfin, je sais pas, là, c'est presque mystique ce que je veux dire, mais est-ce que t'as fait le deuil de ce truc-là, tu vois ?
Oui, bien sûr.
Quand tu le dis, est-ce que l'émotion que tu donnes, c'est vraiment le gars qui a passé cette étape et qui ça te touche plus et t'arrives à en rire ? Et des fois, tu vas le dire en te disant il faut que je fasse une blague parce que ça.
Ouais.
Voilà, c'est. Il faut rire de tout. Mais peut-être que toi, en le disant, t'as pas encore vraiment fait le deuil de ce truc-là et les gens le ressentent, je sais pas.
Ouais, peut-être, ouais. C'est possible.
C'est possible.
C'est possible.
Hein. Je sais pas, c'est compliqué à chaque fois d'analyser des trucs comme ça. Des fois, ça rigole pas. ce qui marche, tu gardes, et puis ce qui marche pas, tu gardes pas, quoi.
Ouais.
Faut pas trop se prendre la tête des fois.
C'est ça, ouais. Mais ouais, des fois, mais faut insister sur des trucs qui tiennent à cœur. Je pense faut tester, modifier, tester le timing, voir pourquoi ça marche pas. Et au bout d'un, si, après, des fois, il y a des blagues, elles sont foireuses, et faut les lâcher. Mais ouais, il y a des blagues que je suis content d'avoir insisté à garder et qui maintenant marchent à chaque fois. Ouais.
Toi, tu pars plus d'un thème en général quand tu vas faire des blagues ou d'une situation d'un...
Ça dépend. Je peux partir d'une situation, d'un thème ou juste d'une blague. Je dis comment développer ce truc-là et le rendre. Ouais.
C'est quoi le plus souvent? C'est quoi? C'est plus une blague et tu construis
autour? Ouais, ou un truc souvent quand il m'arrive. Mais souvent, c'est quand j'ai une rupture. C'est un cliché, hein, l'artiste nous dit et tout. Mais quand j'ai une rupture amoureuse, bam, je me dis attends, faut que j'en rigole, que je trouve le truc marrant dedans. Et ouais. Etc. Souvent, ça part de ça. Mais même si mes blagues ne parlent pas du tout de ça, mais ça me.
Mais quand tu te dis je vais parler de ça, est-ce que c'est une petite blague qui te vient ou en général ou c'est tu te dis ok, je vais me poser, je vais noter tous les trucs, puis je vais voir les blagues qu'il y a dedans?
Ouais, alors ça peut être partir d'une petite blague et après j'ai un carnet où j'ai plein de blagues, où j'ai noté plein de blagues que je n'ai pas utilisées encore. Je vais voir ce que je peux casser dedans, est-ce que ça marche et tout.
Ouais.
Ou alors je pars d'une petite blague, j'essaye de le développer, de le grossir encore.
Je trouve que ça, c'est quand même plus facile.
De mettre en rupture, tout ça. De surprendre les gens en fait. C'est ce qu'on m'a dit, mais des retours qu'on m'a fait, c'est de garder un... qu'il faut que je garde un côté un peu dangereux, que les gens ne s'attendent pas à la chute et que je les amène à un endroit où ils ne pensaient pas du tout aller.
Ouais, et puis des fois, ça passe aussi par dans l'écriture, l'économie de mots, le fait d'avoir une écriture hyper presque en hashtag des fois. Tu sais, tu ne fais pas des phrases complètes.
C'est ça, ouais.
Tu peux comme ça beaucoup plus arriver à prendre les gens de court parce que le cerveau des gens, il va vraiment vite, quoi. Des fois, tu te dis... En trois mots, tu les as déjà amenés dans une direction et ils voient où tu veux aller. Donc, des fois, c'est bien parce que tu peux prendre facilement le
ouais, c'est ça. Ouais.
Le chemin inverse.
Ouais, le biais. Ouais.
Mais quand tu... Enfin, moi, j'ai souvent ce problème, justement. J'écris un truc et je vais souvent direct dans mon sujet. Et l'écart entre ma punchline et le truc de base n'est pas assez fort.
D'accord, ouais.
Tu vois, et ça met longtemps avant de... de trouver c'est vrai. Et des fois je me dis l'autre fois je bossais je voulais faire un concept de vidéo où en gros j'essaie d'aider des gens qui vraiment veulent commencer dans le stand-up, faire une première scène.
Tu avais fait une vidéo comme ça, non?
J'en avais fait une et vu que j'ai eu des bons retours, je me suis dit vas-y, je vais faire la suite mais avec des conseils plus pratiques sur l'écriture, tu vois. Et du coup j'essaie de créer des petits exercices d'écriture, tu vois, où tu mets je sais pas, par exemple j'en avais un où tu te poses des questions par rapport à ton sujet sur lequel tu veux faire une blague, tu vois, tu te poses des questions où tu l'analyses sous tous les angles, tu notes tout ce que tu peux remarquer dessus et après t'as une deuxième colonne où tu vas par exemple t'as une question, t'as la réponse logique de la question dans l'autre colonne tu vas mettre le contraire. Tu vois,
d'accord. Ouais.
Je parle de mes mains, voilà. Et je fais des blagues sur mes mains. Et je vais dire pourquoi elles sont un peu dodues comme ça. Et la réponse logique, c'est que je mange trop.
Ouais. Et
la réponse contraire.
Je mange pas assez.
Je sais pas, que je mange pas assez ou tu sais un truc un peu absurde. Et des fois, tu vois, les trucs absurdes vont t'amener des blagues intéressantes ou.
Ah, c'est pas mal, ouais.
Et après, je joue aussi sur l'exagération, tu vois. Je prends ce truc et genre la réponse normale c'est ça, mais tu l'exagères fois 1000. Donc en faisant une comparaison, par exemple, et comme ça, en fait, t'arrives à générer des blagues. Et au final, je me suis rendu compte qu'en faisant moi-même l'exercice que j'avais arrêté de faire depuis très longtemps, parce que j'écris des blagues comme ça, je me dis c'est bon, j'ai l'expérience. Mais en fait, non, des fois, c'est cool, parce que ça donne des bonnes idées que j'ai pas forcément naturellement en me posant devant un papier, en me disant, OK, qu'est-ce que je vais dire là? Ah tiens, ça, c'est marrant. C'est ouf à quel point de vouloir apprendre quelque chose aux gens, ça t'apprend en fait à toi-même.
Bah oui.
C'est la meilleure manière d'apprendre, quoi.
Tout à fait.
Toi, t'as fait ça avec des enfants aussi. Ça t'a aidé, toi, de donner des cours de poésie, tout ça?
Ouais, des ateliers de poésie plus que des cours, mais en fait, j'applique pas vraiment les règles. Je suis
ah ouais.
Mytho un peu parce que j'applique pas vraiment les règles que je donne aux enfants. On cadre la feuille, tout ça. Après, je l'ai déjà fait, hein. Je me le suis appliqué des fois quand j'arrivais pas à écrire, mais c'est pas ce que je préfère forcément.
Ouais.
Mais ça les aide beaucoup à la fin d'un atelier de 2 heures. Ils ont tous, toute une classe, ils ont tous écrit et dit leur poème devant les autres. Oui.
Ouais, c'est ça qui est un peu le défi quand tu vas prendre des. tout ouais, débutant, c'est qu'il faut un premier résultat.
Un premier résultat, mais on leur laisse pas le temps de réfléchir. On y va, on leur fait des blagues, bam, bam, en deux heures. À la fin, ils se rendent même pas compte qu'ils ont écrit un poème et ils l'ont dit devant les autres. C'est ça. C'est cool.
Puis ils ont l'impression que c'est facile. Puis après, ils commencent vraiment à faire de la poésie un jour et ils se rendent compte.
Et voilà. Et la violence s'arrête. <C'est ça.
rire> bah écoute, merci d'être venu. C'était vraiment une conversation très cool.
Et puis j'ai un pote qui bosse ici aussi, qui était dans l'école, qui a fait l'école Courtrajmé l'année dernière, ouais. Avec qui j'ai créé un court-métrage. En fait.
Ah ouais ? Ça parle de quoi ?
Ça parle de flics en Bretagne.
Deux flics en Bretagne.
Ouais, c'est une comédie, hein, mais deux flics en Bretagne. Et là, on attend de savoir si on a les financements de la région Bretagne. On aimerait bien tourner en Bretagne. Et Lily Film, la prod de Ladjli, vu qu'ils bossent avec eux, sera chaude aussi pour nous suivre.
Trop cool.
Ouais.
Ouais, parce que l'école de Ladjli, enfin Courtrajmé, et ici, ils font en plus la partie post-prod, je crois.
Ouais, ouais, c'est ça, ouais.
D'ailleurs, ils étaient là il y a deux semaines pour présenter, je crois, la nouvelle promo. Je sais plus ce qu'ils ont fait exactement.
D'accord.
Bah écoute, si tu repasses dans le coin, n'hésite pas à venir nous faire un coucou.
Avec plaisir.
Bah merci beaucoup d'être venu.
Merci à toi.
Et puis on se retrouve pour le prochain épisode de Blabla Clap.
Salut.